c'était deux frères déjà, évidemment, qui tous les deux ont pratiqué la photographie. Et particulièrement, et c'est un peu leur spécificité, de la photographie destinée à la presse. Ce qui, à l'époque, donc fin 19e, début 20e siècle, était quand même une nouveauté. On a du mal aujourd'hui à s'imaginer cela, puisqu'il y a des photos dans tous les journaux, dans toutes les revues. Mais à l'époque, les illustrations étaient réalisées à partir de dessins et d'estampes. Donc il y avait très peu de photos. Dans ce sens-là, ils ont été novateurs. Ils n'étaient pas les seuls, mais ils ont quand même été novateurs pour introduire la photographie comme mode d'illustration dans les magazines et revues, etc.
Charles et Paul Géniaux sont nés dans une famille bourgeoise rennaise. À l'époque, la photographie était assez courante dans ce milieu, du moins on réalisait souvent des portraits des membres de la famille. Est-ce qu'on sait à partir de quand ils se sont intéressés à la photographie eux-mêmes en tant qu'art et ont commencé à expérimenter ?
Art, je ne suis pas sûre. Ce n'étaient pas des photographes artistes. Je pense qu'il faut vraiment avoir une distance par rapport à la photographie aujourd'hui. Beaucoup de photographes se présentent effectivement comme des artistes. Eux n'ont jamais eu cette prétention, en tous les cas dans les documents qu'on a pu trouver. C'était leur gagne-pain, la photographie. Parce qu'effectivement, ils sont issus d'une famille bourgeoise, mais dont les finances avaient quand même pas mal décliné. Donc il a fallu qu'ils se mettent à travailler. En fait, clairement, c'est ça. Donc l'aîné, leur père était médecin militaire, donc ils ont beaucoup voyagé, en fait. Et Charles Géniaux, donc l'aîné, a a priori découvert la photographie en Algérie. Lorsqu'il était à Alger avec toute sa famille, il y avait quand même pas mal de photographes en fait au Maghreb déjà à cette époque-là. Les peintres ont été les premiers à s'intéresser à ces thématiques-là, mais les photographes les ont suivis. Est-ce qu'il a appris en autodidacte ? Est-ce qu'il a appris auprès de photographes déjà installés ? On ne le sait pas. En tous les cas, il a découvert cette technique-là là-bas et lors de leur retour à Rennes, il a développé un petit atelier, un petit labo dans la serre de la maison familiale avec l'aide de son frère, en fait. Donc, c'était des jeunes adultes, enfin, entre la fin de l'adolescence pour aujourd'hui, en tous les cas, et puis des jeunes adultes d'une vingtaine d'années, quoi.
Charles Géniaux a voyagé aussi beaucoup au Maroc, en Tunisie. Est-ce que tous ces voyages-là ont influencé sa photo ?
C'est difficile à dire. Il y a vraiment des thématiques. C'est peut-être plutôt dans l'autre sens, en fait. Les thématiques qu'ils ont déjà développées en Bretagne, on les retrouve à Paris. Parce qu'il y a vraiment trois lieux. Bon, l'exposition est vraiment articulée autour de ça. Il y a trois lieux importants dans ce que l'on connaît de leur photographie, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce que l'on connaît, c'est sans doute rien par rapport à leur production. Les négatifs de Charles Géniaux ont été un peu mieux conservés. Ceux de Paul sont partis à la poubelle, sans doute, juste après. Enfin, son fonds a été racheté. Et après, le racheteur lui-même a fait faillite très peu de temps après. Et là, les négatifs ont complètement disparu. Donc, ce qu'on connaît, c'est une toute petite partie de leur travail. Mais les thématiques, elles ont été initiées en Bretagne, vraiment. Et ce sont les mêmes que l'on retrouve à Paris, traitées par Paul surtout, et que l'on retrouve aussi au Maghreb, en fait, par Charles. Donc, c'est vraiment le quotidien des gens, les scènes de rue, les marchés, les cérémonies religieuses, les fêtes, voilà. Ils ont beaucoup, enfin, lui et sa femme ont quand même passé une grande partie de leur vie dans le sud de la France. Et là aussi, que ça dans le Rouergue, au Languedoc, etc., ils ont traité les mêmes sujets, en fait. Tout ce qui concernait ce que lui appelait, enfin, aurait pu appeler en tous les cas, plus les milieux populaires. Il n'a pas photographié très peu, en tous les cas, la bourgeoisie, ni rennaise, ni parisienne.
Est-ce qu'on sait pourquoi il s'intéressait tant à ces milieux de vie populaires et pas non plus justement à la bourgeoisie ?
Je pense que beaucoup de choses ont pris place, comme pour tout le monde d'ailleurs, dans leur enfance. Il a beaucoup, surtout Charles, voyagé, on va dire, fait le tour des fermes dont sa famille était propriétaire. Et c'est là en fait où il a eu les premiers contacts avec les paysans, les agriculteurs, etc. Et il a tout le temps eu ce regard un peu décalé. Je pense que c'est aussi parce que c'est pas spécifique à lui. En fait, beaucoup de photographes de cette époque-là qui ont travaillé sur ces thématiques-là étaient eux-mêmes issus d'un milieu bourgeois. C'est le décalage en fait qui rendait intéressant ces thématiques-là. Tout comme aujourd'hui, si on va, je dis n'importe quoi, au Vietnam, on va être intéressé plus par les ethnies qui vont être différentes de ce que l'on est nous que par les gratte-ciels ou les choses comme ça. Donc, c'est l'écart, en fait, social et culturel aussi, parce que c'est un personnage très, très complexe, c'est un génio, vraiment. Et donc, il a cet attrait pour des gens qui sont très différents de lui. Et en même temps, il a parfois un dédain, mais évident, pour ces mêmes personnes, quoi. Donc ça se ressent pas tellement dans ses photographies, mais dans ses écrits, par contre, ça transparaît vraiment. Et encore une fois, ça lui est pas spécifique. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à la période, quoi. On n'est pas en 1980, quoi. C'est plutôt 1880-90. Donc c'est une attitude assez ordinaire, on va dire, pour des personnes issues de ce milieu-là.
Quant à Paul Génio, il a continué un peu de photographier des scènes de vie aussi de milieux populaires une fois qu'il s'est installé à Paris. Mais il s'est aussi tourné vers la mode ensuite. Est-ce qu'on sait pourquoi ce revirement ?
Dans l'immeuble où ils avaient installé leur studio, il y avait un grand couturier. Et on pense que c'est là qu'il a commencé ses premières photos de mode. Alors il faut être prudent quand même et modeste sur ce qu'on peut en dire. Dans la mesure où pendant longtemps on a pensé qu'il avait commencé la photographie de mode plutôt dans les années 20. Or, pour la préparation de l'expo, en faisant des recherches, etc., on a trouvé des images qui sont à Berlin, à la Kunstbibliothek, qui elles sont datées et qui datent d'avant la Première Guerre mondiale. Donc c'est très probable qu'il a commencé effectivement à photographier les mannequins du couturier qui habitait le même immeuble qu'eux, encore une fois, et qu'après ça a été un sujet sur lequel il n'était pas seul là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a deux ou trois noms quand même de la photographie qui ont orienté leurs travaux vers les mannequins de mode aux courses. C'est très précis, hein, puisque les mannequins défilaient à ce moment-là sur les courses, qui était un lieu justement où se rassemblaient l'aristocratie et la bourgeoisie, et on montrait donc les beaux vêtements, les beaux costumes qui avaient été dessinés par des grands couturiers. Et donc c'est là que les mannequins se faisaient photographier, c'est pas dans des salons comme on peut l'imaginer plus tard. Une des difficultés qu'on a eues, c'est que, donc on sait qu'ils ont publié dans des centaines de revues. Dans les revues, généralement, il y a une table des matières qui référence l'auteur, celui qui écrit l'article, mais jamais le photographe. Donc en fait, au mieux, le nom du photographe va figurer sur la photo, ça veut dire qu'il faut se taper, il n'y a pas d'autre mot, toutes les pages pour trouver en fait. Donc on l'a fait grâce à Gallica en l'occurrence, puisque la BNF a mis en ligne beaucoup de revues. Mais vous voyez, ces images-là, on ne les connaissait absolument pas, elles sont nettement plus anciennes. Et en plus, pour identifier les photos, souvent dans les premières revues de mode, en fait, les photographies étaient utilisées mais retravaillées façon dessin. Vraiment, c'est très difficile de se rendre compte qu'il s'agit d'une photographie, en fait. Les fonds étaient complètement retouchés, il n'y avait plus de fond, souvent. Et puis, la photo elle-même était retouchée, travaillée façon dessin, parce qu'encore une fois, c'était ce qui était choisi comme type d'illustration et apprécié à l'époque. Donc, la photographie disparaît même sous le dessin. Alors, petit à petit, elle s'affirme davantage, et là, on voit bien qu'il s'agit de photographie, mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué de repérer, en fait, les publications dans lesquelles leurs photographies à l'un et à l'autre ont été publiées, quoi.
Ils signaient souvent leurs cartes de visite et leurs photos les frères Génio, sans vraiment de se différencier. Est-ce qu'on sait s'ils voulaient créer une seule entité, une seule identité ?
En tous les cas, ils ont pendant longtemps aussi, notamment le récit familial, des descendants qu'on a rencontrés nous, Paul Génio, il n'existait pas. C'est simple, c'était quelqu'un qui avait complètement disparu. Bon, là, c'est l'histoire de la famille aussi, parce que quand Charles Génio est décédé, sa femme, elle, a vraiment jusqu'à la fin de sa vie tout fait pour que son mari ne tombe pas dans l'oubli, essentiellement son travail d'écrivain, hein, c'est clair. Paul Génio, lui, lorsqu'il est décédé, donc sa veuve a vendu 2 mois après le fonds de commerce. Vraiment, ça a été sa disparition en tant que photographe. Hein, et c'est le récit que m'a fait, moi, la descendante, la première que j'ai rencontrée, en disant « Bon non, mais Paul Génio, il n'avait jamais rien fait de sa vie. » Et c'était vraiment, c'est amusant parce que je lui ai écrit hier, parce que les étudiants du MAE de Rennes 2 travaillent actuellement sur, n'a rien à voir, hein, les rochers sculptés de Rothenneuf. Et ils ont trouvé un article dans une revue, alors je ne sais pas si anglaise ou américaine, en tous les cas, c'est une revue anglophone, dans laquelle il y a des photographes. Toutes les photos qui illustrent les rochers sculptés sont de Paul Génio, et c'est indiqué le célèbre photographe parisien Paul Génio. Donc je lui ai envoyé encore, parce que je pense qu'elle continue à avoir des doutes, en fait. Alors elle a vu les photos de moi qu'elle ne connaissait absolument pas, mais elle continue, pour eux, c'était Charles, l'artiste de la famille, et puis c'est lui dont on parlait. Donc, ils ont commencé ensemble, et je pense que On retrouve leur nom systématiquement dans les travaux qui ont été faits à Rennes. Il y avait certainement une volonté d'association, mais avec, de la part de Charles, tout le temps cette volonté, justement, lui, d'être l'artiste plutôt, et puis que son frère s'occupe des basses besognes, parce qu'en fait, les commandes auprès des magazines, il fallait les chercher, ça ne tombait pas du ciel. Donc il y avait tout ce travail de recherche, de commerce, tout simplement amené. Et là, il n'était pas du tout à la hauteur. Donc leur association a très vite tourné court. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils étaient. Ils ont continué à se voir, ils ont quand même continué à travailler ensemble. Il y a des reportages qui portent encore les deux noms bien après qu'ils se soient vraiment séparés. Et puis, bon, Charles et son épouse ont passé énormément de temps au Maghreb à partir de 1914, en fait, vraiment pendant des années et des années. Ils ont fait des dizaines de séjours en Algérie, surtout en Tunisie, mais au Maroc, en Algérie aussi. Ils se sont séparés, mais il y a toujours eu, on le voit ça à travers la correspondance familiale, une grande proximité, en fait, entre tous les membres, d'ailleurs, entre les deux sœurs aussi et les deux frères. C'était vraiment une famille unie, dans laquelle on sent vraiment une vraie complicité, quoi.
Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont créé ensemble un atelier de collographie à Rennes, ont lancé une revue consacrée à la littérature et à la photographie en Bretagne. Ils ont organisé des expositions, ont publié dans la presse. Est-ce qu'ils étaient connus à leur époque ?
Ils étaient connus certainement sur la place de Rennes, oui, c'est sûr. Donc Charles Géniaud a participé, l'un des créateurs de la société rennaise de photographie, qui existe toujours. Hein. Son épouse, Claire, a laissé 350 pages sur l'histoire de son mari. Donc c'est quelqu'un qui était certainement très orgueilleux et en même temps qui avait sans doute pas vraiment confiance en lui, ce qui fait qu'il a eu visiblement là aussi des relations difficiles avec les gens de la société photographique de Rennes et ça a tourné court assez vite, ce qui est assez courant dans les relations qu'il a eues avec les gens en fait.
Pour revenir sur l'exposition qui est présentée en ce moment au Musée de Bretagne, est-ce que vous pouvez nous dire à quel cliché on peut avoir accès de Paul et Charles Géniaud ?
Alors, l'exposition s'articule autour d'une galerie centrale qu'on a appelée la galerie des originaux. Donc, son nom l'indique, il n'y a que des originaux dans cet espace-là. Et aussi des négatifs sur verre, parce que c'est important pour beaucoup de gens, dont les gens de votre génération, mais même des gens plus âgés qui ont utilisé des appareils photo avec des films, ont oublié ce que c'était la photo argentique quand même. Et donc, avant les films, c'est des négatifs sur verre. Donc, c'était intéressant de pouvoir présenter ces objets-là aussi, qui sont les premières traces maternelles de l'histoire de la photographie. Donc, il y en a un certain nombre. Quand on disposait du négatif avec la photographie originale, on les a placés ensemble. Voilà. Et autrement, il y a quatre salles. Donc une première salle qui présente leur début en photographie, une autre qui est consacrée à la Bretagne, une qui est consacrée au Maghreb et une qui est consacrée aux photos de mode de Paul Géniaud. Donc voilà, donc c'est pas du tout et uniquement centré sur la Bretagne.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous emparer de cette histoire-là ?
C'est une histoire qui remonte à une autre exposition, en fait. En 2012, donc, on a fait une exposition qui s'appelait Reflets de Bretagne, qui était un peu un bilan de l'ensemble, un bilan très très réduit de l'ensemble de nos collections photographiques, puisqu'on a entre 400 et 500 000 négatifs sur verre, plus de 16 000 tirages, donc c'est une énorme collection, donc jamais on ne pourra présenter ça, c'est évident. Mais l'idée, c'était de faire un peu un panel, en fait, de la diversité des collections conservées au musée. Et c'est à ce moment-là qu'on a été contacté par des gens qui ne sont pas descendants de la famille Géniaud, mais qui habitent la maison de Charles Géniaud à Rochefort-en-Terre. Maison qu'il a fait construire, où il a très peu vécu parce que sa femme ne se plaisait pas en Bretagne, et qu'il a revendue assez vite, je ne sais plus si en 1918 ou 1919, genre 3-4 ans après sa fondation en fait. Elle a été rachetée par le grand-père de la dame qui l'occupe aujourd'hui. Et dans la maison, ils ont dû déménager peut-être un peu précipitamment, ou du moins les meubles bretons étaient un peu lourds, donc ils ont laissé des meubles et ils ont laissé beaucoup de négatifs sur verre en fait. Alors nous, on avait acheté, le musée, on a acheté dans les années 90 des photographies, des tirages. Cette fois, on fait vraiment la différence entre les négatifs et les épreuves de Paul Géniaud, qui sont passés en vente publique, qui concernaient aussi la Bretagne, le travail dans les conserveries, le travail dans les marais salants, en Loire-Atlantique, etc. Et donc ces gens-là nous ont montré, donc il y avait dans les 110 ou 150 négatifs sur verre dont ils ne faisaient rien, qu'ils avaient commencé parfois à identifier quand c'était assez régional, et puis pour le reste, c'est des images qui ne leur parlaient pas du tout, quoi. Et donc ils ont décidé de les donner. Et en fait, ça a été un peu, grâce à eux, on est rentré en contact avec la petite nièce, donc Martine de la Ferrière, qui a 80 93 ans, et qui, elle, a connu Charles Géniaud. Bon, Paul aussi, mais elle était toute petite, elle n'en a pas de souvenir, mais Charles, elle s'en souvient. Puis surtout, dans la famille, on lui a beaucoup parlé de Charles, même quand elle était petite et adolescente. Donc c'est un peu comme ça que les contacts ont été pris, parce que pour nous, c'était un moyen de documenter, en fait, ces collections-là, ce qui est quand même très intéressant. Paul Géniaud, il est présent à Paris, à Orsay, à Carnavalet, au musée Galliera, enfin, dans grands musées, sauf que personne ne savait même quand il était né. On disait qu'il était mort à la guerre de 14, dans sa biographie, il est pas mort à la guerre de 14 du tout. Donc voilà, donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'inconnus. Alors pour Charles, moins, parce que c'est son métier d'écrivain, en fait, qui l'a laissé, qui a laissé plus de traces. Et puis encore une fois, sa femme a vraiment veillé à ce qu'il en reste des traces. Donc on savait beaucoup plus de choses sur lui. Donc là, ça a été vraiment l'occasion de documenter en fait le travail de ces deux frères, de découvrir qu'ils étaient deux en photographie déjà et pas un seul. Et voilà, le projet était dans les cartons depuis un petit moment en fait. À partir du moment où on a commencé vraiment à décider de travailler là-dessus, ce qui était intéressant, c'est que justement, ça ouvrait à autre chose que la région seulement. Donc les images bretonnes, elles sont intéressantes, mais celles d'Afrique du Nord, vous verrez, je pense que c'est parmi la salle qui a le plus de succès. C'est vrai qu'il y a vraiment de très très belles images. Donc voilà, c'était l'intérêt de faire découvrir des gens qui sont plus connus aujourd'hui, même s'ils l'ont été de leur temps, et de faire découvrir des images qui sont à la fois esthétiques, mais qui sont aussi très intéressantes sur le plan ethnographique. Donc c'est intéressant de pouvoir mêler les deux, en fait.